Bon, j'ai fait ce message-là, premièrement, pour bien montrer la différence entre pratiquer la religion et pratiquer la vie chrétienne dans le quotidien. Deuxièmement, j'espère pouvoir inspirer et puis encourager la foi de ceux qui ont faim et soif de vivre plus près de Dieu dans ce beau monde et qui ne savent pas trop comment s'approcher de Dieu. Alors, laissez-moi vous rassurer tout de suite. Ce que vous allez entendre, c'est pas un message protestant. En fait, ce que je veux dire, s'adresse autant à un protestant qu'à un catholique, puis pour pas encourager le détestable esprit de propre justice, je vais simplement employer la plupart du temps le mot croyant pour parler de tout le monde en général. Une de nos faiblesses en tant que croyants, c'est qu'on est souvent dévots au lieu d'être pieux. Ou si vous préférez, on est des pratiquants de rituels extérieurs au lieu d'être des pratiquants de piété intérieure. Je vais expliquer ça. Jésus a dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ça se trouve dans l'Évangile de Matthieu 5, versets 23-24. Alors pour Dieu, même les vraies et bonnes pratiques religieuses ne sont jamais plus importantes que la pratique de la piété et de la façon dont on a traité notre prochain. Ça donne quoi d'aller à la messe ou aux réunions évangéliques à tous les jours, de lire la Bible, si on nourrit de la rancune dans notre cœur pour notre prochain? Jésus a dit « Heureux les cœurs purs ». L'apôtre Paul, de son côté, a dit dans son épître aux Éphésiens « Refusez de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos méchant ou inconvenant franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune et tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les criailleries et les remarques blessantes. Apprenez au contraire à être aimables et compréhensifs les uns vers les autres. Aidez-vous entre vous et soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. » Fin de citation. Alors, en lisant ça, on comprend pourquoi la religion et ses pratiques sont souvent impuissantes à nous aider quand on vit des tempêtes émotionnelles. Mais la soumission à l'influence de l'Esprit-Saint, de l'Esprit de Jésus et la pratique de la sainteté du cœur sont des moyens absolument miraculeux pour guérir une âme puis un esprit malade. Bon, il y a une foule de catholiques qui pratiquent même plus leur propre religion aujourd'hui, pas parce qu'ils sont spécialement méchants, mais parce qu'ils ont fini par réaliser que ça leur apportait pas grand-chose de toute façon d'aller s'asseoir sur un banc d'église dimanche après dimanche, puis année après année, à entendre toujours les mêmes choses, puis à ressortir aussi vide que quand ils sont entrés. Il y a beaucoup qui partagent cette expérience-là, ces sentiments-là. Il y a aussi des protestants qui négligent, qui ont commencé, puis ont continué à négliger leur Bible ou d'aller à leur lieu de culte pour les mêmes raisons. L'explication de ça, c'est qu'on en est venu lentement à observer des pratiques chrétiennes au lieu des principes chrétiens. Puis on s'est contenté de ça jusqu'à ce qu'on devienne presque totalement insensible à l'Esprit de Christ dans notre cœur. Ce qui fait la force du christianisme, c'est l'amour du Christ, puis la soumission de cœur à ses paroles puis à son esprit. Je pense que beaucoup de gens réalisent depuis longtemps qu'ils ont bien plus besoin de vie intérieure que de religion intérieure. Ce qui affaiblit la vie spirituelle du chrétien, c'est qu'il est souvent, plus le disciple de la théologie de son Église qu'il est le disciple du Christ, puis de ses directions vivantes, de son esprit, dans sa vie de tous les jours. Le danger, c'est qu'à trop pratiquer les commandements de l'Église, on peut en oublier très vite de pratiquer les commandements de Dieu, ou penser qu'il les remplace. Certains d'entre nous autres, on met de l'argent dans le panier, mais c'est pas par charité. C'est pour pas passer pour gratteux, hein. C'est pour passer pour être charitable aux yeux de ceux qui nous observent, plutôt. On honore le carême, mais c'est pas pour mieux nous approcher de Dieu dans la prière. C'est à peu près juste pour soulager notre conscience, puis pour le plaisir pour pouvoir se vanter, puis de montrer aux autres combien on est religieux. Dans le domaine de la confession, c'est la même chose. Confesser nos péchés et nos fautes, ça les efface absolument pas si on n'éprouve pas de regrets sincères. Toute confession doit être accompagnée par la repentance du cœur, sinon elle devient seulement une pratique extérieure complètement vide de sens. Puis une pratique comme ça ne nous apportera aucun bien-être intérieur réel, aucune paix. À quoi bon se confesser si on ignore le repentir, dit quelqu'un. Puis c'est vrai. Alors pratiquer la confession sans une honnête repentance de cœur est absolument inutile. Aux yeux de Dieu, il vaut mieux se repentir une seule fois sincèrement que de se confesser 100 fois, sans regret et sans honnête intention de s'amender. Bon, il y en a qui vont à l'église à tous les dimanches. Puis durant la semaine, ils se permettent négligemment des écarts de conduite graves. Comment il y a de gens qui vont à l'église le dimanche, puis la semaine, qui boivent comme des trous, qui volent, qui mentent, qui trompent leurs conjoints? Certains parents, ils bourrassent leurs enfants. Ou c'est les enfants qui maltraitent ou qui parlent mal, ou qui parlent grossièrement à leurs vieux parents, puis qui leur manquent terriblement de respect. Pourtant, ils sont à l'église le dimanche. La religion des gens comme ça n'a absolument aucune valeur devant Dieu. Puis, ni pour eux autres non plus, dans le fond. Puis, c'est ça qui est pire, c'est qu'elle ne procure aucune satisfaction aux guérisons intérieures dans le cœur de celui ou celle qui pratique une religion de même. À quoi bon pratiquer quelque chose qui ne nous fait pas de bien? Alors, pourquoi pas commencer à pratiquer les choses qui vont nous faire vraiment du bien? Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». C'est ça le secret du christianisme. C'est ça le secret du bonheur. Pour jouir des paix, des joies de la vie intérieure, il va falloir d'abord travailler dans notre cœur. En Marc 15, Jésus a commencé son ministère en disant « Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle ». En d'autres mots, ayez de la tristesse et du regret sincère de vos fautes passées et appuyez-vous avec confiance en la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et de son pardon. Ça veut dire ça à peu près, paraphrasé, là. Bon, toute véritable spiritualité commence par un repentir, une sincère confession, puis un engagement à faire des efforts honnêtes pour s'amender et changer nos mauvaises habitudes de vie. Cette grâce-là va nous être communiquée uniquement en venant s'asseoir humblement aux pieds de Jésus. Nos frères dans la foi peuvent nous donner des petites paroles des fois qui vont nous faire du bien, mais ils peuvent quand même pas remplacer les grâces puis les communications du Saint-Esprit dans nos vies. Un des dangers d'être toujours rendu à l'Église, c'est justement de devenir plus dépendant des hommes que de Dieu. Alors, soyons pas comme un troupeau de ruminants là, dans un enclos nouvelle, qui passent toute leur vie à se regarder les uns les autres. Mais levons nos têtes et nos cœurs vers celui qui possède les vraies paroles de la vie. Alors, quand on est dévot uniquement dans les pratiques extérieures de notre Église, que ce soit la religion catholique, presbytérienne, baptiste ou n'importe quelle autre, sans avoir fait le ménage dans notre cœur régulièrement, puis dans notre vie de tous les jours, c'est pour ça qu'on reste faible, vide, asséché, puis qu'on est pauvre spirituellement. On aura beau aller à l'église ou à notre lieu de culte puis entendre l'évangile, mais si on ne laisse pas les paroles de Dieu pénétrer en nous autres de façon à changer notre caractère puis notre façon de vivre, mais ça sert à quoi? Après ça, on se demande pourquoi notre christianisme nous laisse vide, qu'on trouve ça plate puis qu'il ne nous apporte pas de vraie consolation. On voit que le christianisme a fait des grandes promesses, des merveilleuses promesses, puis on sent que, on a l'impression que Dieu ne remplit pas ses promesses-là. Ben, s'il y a un problème, ça ne dépend pas de Dieu. On devrait chercher les problèmes de ce côté-ci de la clôture, je pense. On peut connaître notre petit catéchisme par cœur ou connaître notre Bible par cœur, mais des fois, ça n'a pas l'air de nous déranger d'avoir la langue presque aussi sale qu'un torchon. Dans l'Épître de Saint-Jacques, au chapitre 1, verset 26, ça dit « Si quelqu'un s'imagine être dévot sans mettre un frein à sa langue, il trompe son propre cœur. » Sa dévotion est vaine. La messe ou le culte vient à peine de finir des fois qu'on est déjà sur le perron à mal parler des autres. On vient juste d'embarquer dans l'auto qu'on commence déjà à chialer après notre épouse. C'est vrai ou c'est pas vrai là, ce que je dis là? Alors c'est pour ça que notre religion est souvent sans aucune force à nous rendre heureux. Le psaume 101, verset 2 dit « Je prendrai garde à la voie droite. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Pas juste au temple, au milieu de ma maison. Alors un christianisme qu'on ne peut pas ramener chez nous après le culte du dimanche n'est pas du vrai christianisme, mais juste la coquille. Faisons tous nos efforts pour pas commettre le moindre péché, parce que plusieurs petits péchés peuvent nous nuire encore plus qu'un grand. Se faire croire qu'il n'y a plus de péché ou que ceux qu'on fait sont pas importants, c'est une erreur grave. Justifier nos fautes nous endurcit le cœur, puis nous prive de la paix de Dieu qui est si nécessaire à l'homme pour son bonheur. Le bonheur, c'est pas la négation de nos péchés, mais bien au contraire, le bonheur se trouve dans l'admission, la confession et la purification de ceux-ci. Mais en niant nos torts, on ressemble à des petits-enfants qui pensent qu'ils disparaissent en se cachant la figure avec leurs deux petites mains. Mais le Proverbe 28:13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » C'est lui qui en souffre en premier. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mes amis, la négation de nos péchés et de nos fautes ne nous guérit jamais vraiment du sentiment de culpabilité, comme plusieurs psychologues l'enseignent. Ça, c'est un pauvre et souvent insuffisant remède au cœur de l'homme. La recette de Dieu est bien meilleure. La façon de Dieu est bien plus efficace à guérir nos âmes. L'apôtre Pierre a écrit ceci dans sa première épître à propos de Jésus. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Bon, la seule vraie guérison intérieure et le seul vrai bonheur de l'homme ne se trouve qu'en Jésus-Christ et en son évangile. L'homme ne doit pas chercher à ignorer le mal qui est en lui ou en fuir la réalité ou essayer d'oublier le passé. Il doit au contraire l'admettre honnêtement et volontairement. Il doit le sortir à la lumière de Dieu, le confesser puis remercier Jésus-Christ pour son sacrifice qui a payé cette dette morale-là. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul a écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On voit la récompense d'une marche honnête avec Dieu. La repentance et la vraie confession signifient la fin de tout sentiment de culpabilité. La psychologie moderne nous apprend généralement à nier la culpabilité ou la mettre sur le dos de notre père, de notre mère, de nos frères, de notre passé. Mais il n'y a rien que le Christ qui peut nous l'enlever. La mettre sur le dos des autres, ça ne nous guérit jamais vraiment. La psychologie en veut à la religion parce que celle-ci culpabilise très souvent les gens puis aggrave leurs conditions. Ça, c'est vrai, je ne peux pas dire le contraire. Beaucoup de gens sont malhabiles à prêcher l'Évangile, à enseigner la volonté de Dieu, ce qui a pour résultat, comme j'ai dit, de culpabiliser les gens encore davantage au lieu de les guérir. Jésus aussi était contre cette sorte de religion pesante-là. Il a dit lui-même aux prêtres de son temps, « Vous liez des fardeaux pesants sur le dos des hommes, et vous ne les aidez pas même à les remuer du petit doigt. » Mais le vrai christianisme est totalement différent. Jésus, lui, nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Bon, revenons à notre sujet principal. Ce qui fait vraiment du bien à un croyant, ce n'est pas les pratiques extérieures, mais la vraie piété du cœur. Il y a des masses de gens qui sont très fidèles à leur Église, mais qui se sentent quand même loin de Dieu, puis qui sont malheureux intérieurement. Et pourquoi? Eh bien, généralement, parce qu'ils ont mal été dirigés dans les voies spirituelles, ou parce qu'ils ont simplement pas été dirigés du tout. On leur a juste enseigné à aller à l'Église, puis à croire à tout ce qu'ils entendent, sans se poser de questions. Comprenez-moi bien, aller à une église, c'est très bien. Mais c'est toujours pas ça qui va automatiquement faire de nous autres des croyants heureux, ni même des croyants tout court, en fait. Ce qui fait souvent la tristesse du croyant, c'est qu'il a remplacé Jésus-Christ par l'église dans sa vie, sans s'en rendre compte. Être attaché à une église, c'est très bon, comme je l'ai dit, mais l'église ne doit pas passer avant Jésus-Christ dans notre vie, dans notre cœur. Si vous faites dépendre votre bonheur plus de votre communion avec l'Église que de votre communion avec Jésus-Christ, ben vous allez comprendre votre douleur un jour. J'espère seulement que vous n'aurez pas à attendre d'être complètement asséché spirituellement ou brisé avant de vous rendre compte que vous avez fait dépendre votre vie et votre bonheur de la mauvaise chose. Le plus important dans la vie chrétienne, c'est pas d'aller à l'Église, mais premièrement d'aller à Jésus-Christ. C'est pas de s'asseoir dans l'Église, mais premièrement, s'asseoir aux pieds de Jésus. C'est pas d'entendre des sermons, mais premièrement d'écouter la voix de l'Esprit qui parle en nous. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est une question de priorité. C'est quelque chose d'extrêmement important, ce que je dis là. Jésus a beaucoup parlé de religion durant son ministère. Il a surtout parlé de communion avec lui-même. Pour Jésus, la religion devait être une communion. Jésus a dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Évangile selon saint Jean, chapitre 15. Alors, beaucoup de croyants sentent qu'il manque quelque chose dans leur vie. Ils n'ont justement pas cette joie-là, cette joie spirituelle-là qu'ils seraient supposés avoir. Puis ils ne savent pas du tout pourquoi qu'ils l'ont pas. Il peut y avoir toutes sortes de raisons à ça, mais je pense que de façon tout à fait générale, on peut dire que c'est parce qu'on a un peu remplacé Jésus-Christ par la religion dans notre vie. Il y a beaucoup de croyants qui sont plus fidèles à l'Église que d'aller à Jésus-Christ dans la prière. La lecture des Évangiles ou la méditation, c'est très important, c'est plus important qu'aller à l'Église. Encore une fois, c'est très bien d'être fidèle à notre culte, mais ce serait une grave erreur de croire que notre présence à l'Église va remplacer la communion personnelle avec Jésus-Christ. Jésus a dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. » À l'école ou ailleurs, on a tous reçu une certaine instruction religieuse en ce qui concerne la foi de notre Église. Mais quand est-ce qu'on a reçu les instructions de notre vrai maître Jésus-Christ? Quand est-ce qu'on a reçu ses instructions, comme il l'a dit? Alors, si vous allez à l'Église fidèlement depuis des années, puis que vous vous sentez encore asséché spirituellement, ben c'est probablement parce que vous avez été disciple de votre Église plus que disciple de Jésus-Christ. C'est la plus stricte vérité. Ça, c'est pas un reproche que je fais. Je fais rien que souligner quelque chose qui va nous aider. C'est forcément la raison de notre sécheresse spirituelle parce qu'il n'y a aucune sécheresse en Jésus-Christ. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors celui qui vit près de Jésus-Christ ne vivra jamais de sécheresse spirituelle. Alors posons-nous là, cette question-là. Est-ce que j'ai pris le temps dans le passé? Puis est-ce que je prends encore le temps présentement de m'asseoir quotidiennement au pied de Jésus pour écouter sa parole? Est-ce qu'on peut dire en toute honnêteté qu'on se sert vraiment de l'Évangile pour nourrir notre vie intérieure? Ou si on va juste à l'Église, écouter vaguement, puis penser à d'autres choses, puis s'en aller quand c'est fini? Maintenant, si la vraie spiritualité nous intéresse, si on est de ceux qui ont faim et soif de quelque chose de réel en matière d'expérience religieuse, on va devoir apprendre à recevoir les instructions de Jésus lui-même. Laissons les extérieurs de la religion chrétienne à ceux qui s'en contentent. Et nous autres, cherchons à vivre quotidiennement en communion avec le Christ lui-même. Ça se fait uniquement en ayant une oreille attentive à l'enseignement intérieur de son esprit. Jésus a dit, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Saint Jean 14, 26. Beaucoup de croyants vivent dans une sorte d'assoupissement spirituel. Ils prient presque pas, ils lisent presque jamais les Évangiles, ils ne se sont jamais vraiment posés de questions à propos de leur salut, puis ils ne s'inquiètent pas du tout du sort final de leur âme. Du moins jusqu'au jour où ils se retrouvent sur un lit d'hôpital, là, avec la mort suspendue au-dessus de leur tête, comme une épée qui est tenue juste par un petit fil. Là ils s'en posent des questions. Mais ayant négligé de s'instruire dans les Écritures, ils savent si peu de choses au sujet du royaume de Dieu, de la mort, de la vie, du bien, du mal, du ciel, de l'enfer, du péché, de la grâce, du salut, de la perdition, que c'est devenu très difficile de les amener à la connaissance de tout ce qu'ils ont à savoir pour acquérir l'assurance de leur salut face à la mort, de trouver la paix avec Dieu, puis la sérénité face à cette mort-là. Qu'est-ce qu'on préfère, dans le fond? Mourir dans la confiance, puis dans la paix, ou mourir dans la frayeur puis l'incertitude. L'apôtre Saint Jean a écrit dans sa première épître, chapitre 2, verset 26, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Alors soyons sages, puis profitons de la vie qui nous reste pour nous instruire dans les évangiles de façon sérieuse, afin de pouvoir nous préparer à entrer dans l'éternité. Puis quand la mort va se présenter à notre porte un jour, on va pouvoir lui faire face avec une pieuse acceptation, dans la paix de Dieu, puis sans éprouver aucune crainte. On n'éprouvera pas cette crainte maladive-là qu'éprouvent ceux qui ont vécu dans la négligence de Dieu toute leur vie. Mais pour le croyant qui s'est appliqué sérieusement à bien prier, à bien parler, à bien se conduire dans sa vie, la mort perd totalement son côté effrayant. La mort devient même une joie pour la femme ou l'homme pieux, parce que c'est la dernière épreuve à franchir avant d'être enfin réunis, puis de voir son Sauveur face à face, de vivre enfin avec celui qui les a tant aimés, tant aidés, puis tant accompagnés sur la terre. Pour le croyant ayant eu une vraie piété, la mort est la porte de la vraie vie, et non pas une tragédie ou la fin de tout. Le monde est une grande maison sans toit. La connaissance de Jésus-Christ et la confiance en Dieu deviennent, justement, les deux versants de ce toit spirituel-là que l'âme humaine a tant besoin. Il n'y a rien de plus précieux dans la foi que la foi en ce beau monde. Laissez-moi vous résumer un article que j'ai lu, un article de M. Pierre-Yves Dagenais, qui était atteint d'un cancer terminal. Il a fait paraître cet article-là dans la revue Le Vigneron, peu avant d'aller vivre dans la présence de son Seigneur. Il est mort en 1998, en janvier. Écoutez bien ça. « Je suis heureux, non pas à cause que tout va bien, mais parce que le Seigneur est là, présent au cœur de ma vie. Jésus est avec moi chaque jour, peu importe la situation dans laquelle je puis me trouver. C'est une certitude consolante, encourageante, calmante. C'est en 1995 que je trouve des anomalies dans mon corps, du sang dans mes selles, puis une douleur constante au rectum. Au début, je pensais que c'était des hémorroïdes. Toutefois, à la suite d'examens plus approfondis, en septembre 1995, les docteurs découvrent une tumeur cancéreuse dans les glandes du rectum. Ils m'ont ouvert l'abdomen pour découvrir qu'ils ne pouvaient pas enlever le cancer. Il était trop gros et trop dur. Seule une colostomie a été pratiquée. Depuis, j'ai dû porter une sonde urinaire et subir des traitements mensuels de chimiothérapie afin de modérer la progression du cancer. Le cancer a même commencé à gruger dans les eaux du bassin. Je n'ai pas vécu de période de révolte, ni envers la vie, ni envers Dieu, ni envers autrui. Je considérais que me révolter contre Dieu était comme me donner un coup de poing en pleine figure. C'était inutile. Je pressentais que j'allais vivre quelque chose de difficile dans ma vie, mais je ne savais pas que ce serait sur ma santé, jusque-là excellent. Je savais toutefois pouvoir affronter paisiblement l'épreuve de ma vie à cause du travail de l'amour de Dieu dans mon cœur. Je savais que cette épreuve servirait la gloire de Dieu, qu'il me guérisse ou non. Si Dieu me guérit, sa gloire est évidente. Si Dieu ne guérit pas mon corps, l'attitude de paix et de joie provenant de l'amour de Dieu dans ma vie manifestera sa gloire. Comme a dit l'apôtre Saint Paul, j'ai cette assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 38-39. Je continue la citation. Pendant que j'étais en bonne santé, je me laissais façonner par lui, même si je rouspétais quelquefois. Maintenant, avec cette maladie mortelle, je me laisse encore plus façonner, à la différence que maintenant je n'ai plus la force de rouspéter. Je me décharge sur lui de tous mes soucis, car lui-même prend soin de moi. Oui, il prend vraiment soin de moi. À travers la souffrance de mon corps, le Seigneur me donne une abondance de bienfaits et de réconfort, au point où je puis dire « Merci Seigneur, ta présence m'émeut davantage que ma maladie. À travers mon cancer, tu me purifies. Devant ta souveraineté sur toutes circonstances, un malheur est-il vraiment un malheur? La parole n'affirme-t-elle pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Je suis bénéficiaire d'une paix et d'une joie presque sans faille. C'est impressionnant de constater en moi un moral d'acier dans un corps affaibli. Ce moral d'acier me vient de l'Éternel chez qui je prends simplement refuge. Ce moral divin est disponible à chaque chrétien qui veut faire sa volonté. Je me sens tellement heureux que je ne peux garder cela pour moi seul. Plus j'en parle, plus cela me remplit de bonheur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. C'était la citation du psaume 73-28. Fin de la citation. Là, on voit ce que la foi et la confiance en Jésus-Christ peut faire dans la vie d'un homme. Pierre-Yves de Genève, il était membre de l'armée du salut à Rosemont. Je vais vous partager un autre témoignage maintenant. Il y a plusieurs années, il y a un producteur de documentaires qui a obtenu la permission d'amener sa caméra dans la chambre d'hôpital d'un homme qui se mourait d'un cancer aussi. Il s'agissait d'un homme de race noire, il avait à peu près 60 ans, puis il avait été pasteur d'une petite église baptiste toute sa vie. Là, quelques-unes de ses dernières paroles. Quelques-uns de vous m'ont demandé si j'étais fâché contre Dieu à cause de cette maladie qui s'est emparée de mon corps. Je vous dirai en toute honnêteté que je n'ai que de l'amour dans mon cœur pour mon Seigneur. Dieu n'est pas le responsable. Nous vivons dans un monde de péché où la maladie et la mort sont les malédictions que l'homme a amenées sur lui-même. Et j'irai bientôt dans un endroit meilleur, où il n'y aura plus de larmes, plus de souffrances, plus de douleurs. Alors ne vous en faites pas pour moi. De plus, notre Seigneur a souffert et est mort pour nos péchés. Pourquoi ne partagerais-je pas ses souffrances? Fin de citation. Alors, le monde peut être une vallée de larmes, mais le ciel va être un lieu de consolation magnifique pour les vrais croyants. La mort devient la porte de la vie pour eux autres. Même la mort est un refuge et une bénédiction pour le croyant. Sur le point de mourir, le même pasteur dont je viens de parler a déclaré « C'est justement maintenant que je vis les heures les plus magnifiques. Je ne pense pas que Rockefeller soit aussi heureux que moi. » Je vais vous citer maintenant un dernier témoignage. C'est un témoignage très ancien. Ce sont les dernières paroles du pasteur Drelincourt sur son lit de mort. Ce pasteur-là a vécu de 1595 à 1669. Il a dit « Adieu mes chers parents, mes amis précieux. Je monte vers mon Dieu. Je m'en vais vers mon Père. Essuyez par la foi les larmes de vos yeux. Bannissez de vos cœurs toute douleur amère. Et si jamais pour moi votre amour fut sincère, contemplez mon bonheur et soyez-en heureux. Je ne perds en mourant que la mortalité. Suivez-moi sur les traces de l'espoir et du zèle. Si la mort désunit pour un temps limité, Dieu nous réunira dans la gloire éternelle. Plus lourd est le fardeau, mieux l'amour se dévoile. Il fleurit bien souvent dans le vallon des pleurs. Doucement vers le ciel, il enfle notre voile. Il est un baume saint pour nos grandes douleurs. » Fin de citation. Alors, on vient d'entendre le témoignage de trois croyants qui avaient une foi vivante, une vieille foi, une foi morte, une foi qui n'a pas été nourrie, est incapable de nous procurer une consolation pareille devant la mort. Mais une foi vivante donne une vision céleste et nous communique la capacité de regarder la mort avec les yeux de Jésus-Christ. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. « Gardons les yeux fixés sur Jésus » dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et il nous mènera au but. Parce que Jésus avait en vue la joie qui lui était réservée, il affronta la mort sur la croix et désormais il siège à la droite de Dieu. Alors laissez-moi vous citer ici une petite prière anonyme que j'ai trouvée sur la carte de sympathie d'un de mes oncles qui est mort il n'y a pas tellement longtemps. Soumis à la volonté de Dieu, j'ai vu venir la mort avec le calme et le courage que donne la foi. Qu'il est doux de mourir quand on a bien souffert. Qu'il est doux de s'endormir sur la croix et de s'éveiller pour entrer au ciel. Alors, je trouve cette prière-là très, très belle. C'est une prière qui va très bien avec les textes qu'on vient de lire. Alors, en conclusion, depuis le début de ce message-là, vous avez peut-être commencé à réaliser que vous aviez, dans le passé, pratiqué un christianisme peut-être rituel qui vous a laissé vide. Alors, si vous pensez que votre relation avec Dieu n'est pas aussi vraie ou aussi profonde que vous le voudriez, Demandez à Dieu à tous les jours de vous aider à vous rapprocher de lui, jusqu'à ce que votre religion là, devienne une communion avec Jésus-Christ. Il y en a qui se disent peut-être, « Ah, moi, je suis trop vieux pour changer. Je suis trop vieux pour changer de religion. » Dieu comprend parfaitement ça. En fait, quand on a un certain âge, qu'on a pris des vieilles habitudes, ben c'est vrai que ça peut être devenu très difficile de les changer. Mais rassurez-vous, le plus important pour nous autres, c'est pas vraiment de changer de religion, mais premièrement, de changer de cœur. Puis ça, ben peu importe l'âge qu'on a, ou dans quelle église on se trouve, on peut tous changer la disposition de notre cœur. Notre tête vieillit peut-être, là, mais notre cœur ne vieillit pas. On sera toujours capable de devenir plus sincère avec Dieu. Tu sais, dans le fond, l'âge, c'est rien qu'un chiffre, c'est rien qu'un numéro. Le cœur vieillit pas, lui, puis on est capable de changer ça. Si Dieu a déjà commencé à vous dire que certains changements devaient être faits dans votre vie, n'inquiétez-vous pas. Il va vous aider lui-même à les faire, ces changements-là, puis n'ayez pas peur. Dieu va vous changer très lentement, si c'est ça que vous voulez. Dieu va toujours à notre vitesse. Il ne nous brusque jamais. Allons fouiller dans nos vieilles affaires, là, sur nos tablettes, là, puis trouvons-nous un évangile ou un Nouveau Testament, puis lisons un petit bout à tous les matins ou à tous les soirs. En lisant votre évangile, ben, suivez Jésus partout où il va. Imaginez là, que vous êtes parmi la foule des gens qui l'écoutaient. Après ça, ben, dites seulement quelques petits mots de prière à Dieu à propos de ce que vous avez lu ou à propos de ce que vous avez vécu durant la journée ou qu'est-ce que vous vous préparez à vivre. Je vous garantis qu'au bout d'un mois, ben, vous ne reconnaîtrez plus vous-même. Vous allez trouver une paix puis une joie intérieure que vous avez peut-être jamais connue ou que vous avez perdue depuis très longtemps. Vous savez, on peut être resté fidèle à notre Église pendant des années, mais avoir négligé Jésus-Christ depuis très longtemps. Alors, l'erreur est tellement subtile qu'on peut pas blâmer personne, dans le fond, mais c'est souvent ce qui arrive. C'est pas le nom ou le credo de notre dénomination chrétienne qui sauve ou qui donne. C'est l'état de notre cœur envers Dieu, l'état de notre foi envers Jésus-Christ, puis notre conduite envers le prochain. D'un autre côté, les évangiles puis les épîtres nous disent aussi que pour être capable de vivre une vie qui plaise à Dieu, on doit, autant que possible, de se dissocier de la compagnie des personnes qui ont tendance à nous induire dans le mal ou le relâchement spirituel, puis de nous associer au contraire avec des gens qui sont sérieux dans leur foi chrétienne. Puis là, ben, j'aime pas être obligé de dire ça, mais pour y arriver, il va quelquefois falloir que vous changiez d'église. Il y a l'apôtre Saint-Paul, dans sa deuxième épître à Timothée, a dit « Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Puis là, je donne aucun nom d'église là, à laquelle vous devriez adhérer ou quitter. L'important, c'est de vous joindre à des gens qui aiment Jésus-Christ et qui aiment l'Évangile d'une façon véritable, afin de pouvoir bénéficier justement de leur bonne influence à votre vie. Parce que vous savez qu'à force d'être entouré de gens qui ne pratiquent pas le christianisme sincèrement, on finit par croire que c'est correct de faire comme eux autres. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dès l'Écriture encore une fois. Dans le monde dur, froid puis égoïste dans lequel on vit là, vous savez comme moi que c'est pas toujours évident de vivre pieusement. C'est pour ça que quand on est entouré de gens qui aiment Dieu de tout leur cœur, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de vivre notre foi comme on doit la vivre. Si on ne s'associe pas à des gens sincères dans leur amour de Jésus-Christ, qu'on le veuille ou non, ben on va subir l'influence de ceux qui ne sont pas. Puis on va vraisemblablement devenir comme eux autres, à la longue. C'est-à-dire qu'on va être lentement amené à pratiquer une religion du dimanche que va nous apporter pratiquement rien dans notre vie. Puis on sait que c'est pas le dimanche qu'on a le plus besoin de Dieu, mais c'est surtout la semaine. Quand on vit en plein milieu de nos responsabilités, là, de nos soucis puis de nos épreuves. Je sais que beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment, là, sont pas les chrétiens qu'ils voudraient d'être. Pas parce qu'ils sont méchants, mais pas parce qu'ils aiment pas Dieu, mais parce qu'ils ont pas peut-être cherché les bonnes compagnies chrétiennes. Dans sa seconde épître à Timothée, l'apôtre Paul a dit justement à Timothée, « Recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » 2 Timothée 2:22. La traduction Bible de Jérusalem a rendu « Recherche la justice, la foi, la charité, la paix en union avec ceux qui d'un cœur pur invoquent le Seigneur. » Pour la dernière partie de mon message, ben, j'aimerais simplement vous lire plusieurs passages des Écritures que je vous encourage à méditer pendant que vous écoutez, ou peut-être les réécouter plus tard. J'ai spécialement choisi des textes qui vont nous aider à mieux comprendre l'Évangile de notre salut. Il y a premièrement Jérémie 29, 11 à 14. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Ésaïe 53, 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre 2, 21 à 25 maintenant. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Jean 3, 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 14, 1 à 4. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Jean 15, 4 maintenant. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. » Jean 15, 7 à 11. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, « demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 17, 24 à 26. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Éphésiens 5, 8, 9. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens 5, 14 à 20. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, 15, 16. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Apocalypse 20, 11, 12. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Matthieu 25, 31, 36. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Finalement, Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. »